89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui on reçoit des militants de la revue Z qui a sorti déjà deux numéros en 2009.
Those who fight never ascend. The deal's the thrill, the prize is full. As buried seed, so goes the pulse. Nay, jades are vaunted, Miss leaves inflate, Miss steps all go back into place. I'm stooped and forced to descend, wishing I'd rise up in the end. But now I bite as Zenday shall, wishing you'll get me out of hell. The knows me arms, they're all plain. So was the deal. The wind's always a better place, for those who fight never embrace. The deal is real, the promise is high, but it's where it seems when the foe goes by. The wind's always a better friend, to those who fight never ascend. The deal's a thrill, the prize is full, but it's where it seems, so goes the poor. Me limbs are buried in the sand, the mole-scale model carved by your hand. I grab a limb while you're away, hoping for your return someday. I'm here remodeling my hope, three limbs buried deep by the slope. I so hope there's no one around, no one should see that on the sand. The wind's always a better place, for those who fight never embrace. The deal is real, the prize is high, as fair it seems when the phone comes by. The wind's always a better friend, for those whose fight never ascends. The deal's a thrill, the prize is full. That's where it seems, so goes the poor.
Bonjour, vous êtes là avec les amis d'Orwell. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Greg, avec Anne-Marie de la revue Z. Donc c'est une revue qui a démarré donc en printemps 2009. Il y a déjà deux numéros qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette revue Z et puis comment elle s'est créée ?
En fait, au départ, le projet est parti d'une envie de quelques-uns d'entre nous qui avaient eu des expériences dans la presse et qui étaient assez insatisfaits de ce qu'ils avaient pu vivre dans la presse et qui, par ailleurs, avaient des activités militantes. Donc, il y a eu cette idée de réunir un peu les copains qui militaient et qui avaient envie de sortir du salariat de la presse. Et on a commencé à réfléchir il y a 2 ans à un projet qui nous permettrait à la fois de traiter des questions qui nous intéressent, qu'on pourra peut-être développer après, et à la fois de pouvoir mettre en place ce principe d'itinérance, ce qui consiste en fait à partir sur un terrain à chaque fois, pour chaque numéro, pendant au moins un mois, et à partir de ce terrain donc, et des rencontres qu'on y fait, on écrit et on essaie de aussi pouvoir faire participer les gens qu'on rencontre là où on va. Voilà.
Oui, tu nous as désigné comme les militants de la revue Z. Ce n'est pas exactement ça. Je ne dirais pas que c'est une revue engagée proprement parlée. Ce qui était dit, c'était que c'était le projet, c'était de créer un lien entre des luttes qu'on rencontre justement sur le trajet itinérant. De rapporter des luttes. D'ailleurs, pour la plupart des sujets qui sont traités une démarche de critique, d'analyse, etc., il y a en général une rubrique action pour un certain nombre de sujets, comme il peut y avoir une rubrique témoignage, ou... mais ça a été un peu pour pas mal de sujets. Il y a eu ça, je ne sais pas si sur le troisième numéro c'est encore le cas, mais sur les deux premiers, le deuxième numéro, c'est on parle beaucoup d'expropriation dans la ville de Marseille. Donc, il y a des rubriques, il y a une rubrique action qui met en avant. Une lutte locale sur, par exemple, surtout sur le quartier du Panier, qui est au centre-ville de Marseille, mais sur beaucoup d'autres sujets, que ce soit les EPM dans le premier numéro, les bracelets électroniques aussi. Après, c'est pas forcément des actions ça dépend, ça peut être, c'est différentes formes d'action. L'idée, c'est d'être dans un truc où on critique et on met en avant ce qui s'est passé à tel ou tel endroit.
Peut-être ce qu'on peut préciser aussi, c'est que on avait remarqué en fait qu'il y avait déjà pas mal de choses qui pouvaient être écrites à partir des différents milieux militants ou des différentes mouvances, ou je ne sais pas trop comment les qualifier, et que beaucoup de ces revues ou de ces parutions, en fait, s'adressaient pas mal quand même aux gens qui participaient à ces luttes-là, et que peut-être il était intéressant de travailler sur une manière de dire les choses qui puisse sortir un petit peu des différents milieux et être saisie par des gens qui ne sont pas forcément ultra politisés et tout ça. Qui pourrait donner des envies aussi de participer à des luttes ou de faire des liens entre différentes luttes. Il y a aussi cet aspect-là quand même.
Et comment vous financez la revue ? Vous arrivez à vous en sortir ?
En fait, au départ, on a monté très bêtement une demande de subvention pour le premier numéro. Et avec les ventes du premier numéro, on a financé l'impression du deuxième numéro. Et là, pour le troisième, on vit un peu toujours sur les ventes du deuxième numéro. Et on se débrouille, on n'en vit pas du tout, personne n'en vit. Là, depuis quelques mois, on se défraie les déplacements en itinérance, ce qui est déjà vachement bien parce que c'était un peu compliqué. Et puis après, on vit un peu chichement quoi, quand on se déplace quelque part. On fait un peu appel au réseau des copains qu'on a pu rencontrer sur des luttes et tout ça. Et on se débrouille pour que ça nous coûte pas trop cher.
Il faut dire aussi que le premier numéro, la distribution a été faite par les gens qui ont écrit le numéro en fait. Donc ça demandait de faire des trajets dans des villes partout en France et de faire les démarches auprès des librairies. Et ça a permis d'économiser, je pense, une somme assez conséquente.
Il y a combien d'exemplaires ?
Le premier numéro a été tiré à 1500. Il s'est plutôt bien vendu. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait tenter d'augmenter un petit peu le tirage au second et on a monté à 2000 exemplaires. Là, depuis le deuxième numéro, on passe par un diffuseur dont c'est le métier. Et on est en train de regarder comment se passent les ventes en librairie. On n'a pas du tout pris de décision. On n'est vraiment pas, en fait, on est très mauvais sur la stratégie économique de diffusion. On est vraiment des billes. On part plutôt de nos envies et de ce qu'on a envie de faire en termes d'écriture et de lutte et de sensibilité. Mais là, c'est vrai qu'on se dit que si le numéro 2 fonctionne bien, on pourrait envisager peut-être d'augmenter le tirage pour le numéro 3, en sachant que... Là, il commence à être un peu dans toutes les librairies de France, ce qui est intéressant. Et donc peut-être augmenter le tirage pour le numéro 3. Mais pour l'instant, ça reste confidentiel, quoi. 2000 exemplaires, c'est tout petit.
Mal, hein, quand même.
Mais la diffusion du premier, c'est marrant parce qu'elle s'est faite sur le chemin pour aller à Marseille, plus ou moins. Quand il y a deux personnes qui ont commencé à partir vers Marseille, c'était cet été. Ouais, et en passant par un certain nombre de villes, il y a eu cette diffusion du premier, donc ça c'est rigolo que ça se passe aussi comme ça. Maintenant c'est un peu moins à l'arrache avec le diffuseur, mais.
Et vous avez rencontré des lecteurs. Il me semble qu'il y a eu une réunion à l'occasion de la sortie du deuxième numéro. Enfin, vous avez des informations sur les lecteurs. Si justement ce sont des personnes qui sont non militantes, enfin je sais pas.
Je pense que c'est peut-être vrai pour beaucoup de projets. Les critiques qui ont été les plus sévères, c'est celles de nos copains, avec qui on peut faire des choses. Après, effectivement, les lecteurs qui se sont présentés à la réunion de lancement du numéro 2 à Marseille, il se trouve que c'était très 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 diverses les gens qui étaient là. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de Marseillais, certains qui étaient assez âgés, des jeunes, des gens qui étaient, je sais pas, peut-être un peu ambiance NPA, d'autres anards durs, d'autres pas forcément plutôt autonomes. Enfin, il y avait vraiment de tout. Et pour nous, c'était assez enthousiasmant de voir en fait que ça avait été très bien reçu par les Marseillais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites sur leur ville et beaucoup de choses assez énervantes dans lesquelles ils ne se retrouvent pas. Ça arrive quand même souvent. Et là, je sais pas, il y avait 80 personnes dans cette librairie et ça a bien fonctionné en fait. La parole a bien circulé et les gens se retrouvaient pas mal dans ce qui avait été écrit, notamment par rapport aux luttes du logement, notamment par rapport aussi aux grands événements culturels qui se dessinent pour Marseille avec son élection comme capitale européenne de la culture. Voilà, ils s'y retrouvaient et donc on était surpris de voir qu'effectivement les lecteurs, c'était des gens assez différents et oui, plutôt politisés, mais après pas forcément les gens de qui on est le plus proche au quotidien, quoi.
Et alors comment s'est décidé le premier numéro, le choix donc de partir dans le Tarn et les sujets aussi?
Le choix du Tarn, en fait, c'est qu'on avait des copains bergers dans le coin et qu'on avait déjà commencé à réfléchir à ces questions de contrôle qui pouvaient s'exercer à travers des technologies comme la RFID et ce genre de choses, et que là-bas, les gens étaient très concernés par ces questions-là et qu'ils avaient envie qu'ils acceptaient d'en parler. Et puis après, on est vraiment parti de nos envies. Enfin, on était plusieurs à avoir envie de traiter de ces questions de naissance et de surmédicalisation de la naissance. Du coup, ça a donné lieu après à une écriture sur les bracelets électroniques. Et puis à côté du lieu où on était, il y avait le premier établissement pénitentiaire pour mineurs qui avait été construit. Donc on s'est dit que comme on était aussi assez sensible aux questions carcérales, on allait faire quelque chose là-dessus, quoi.
Donc peut-être on peut commencer par parler du premier numéro donc qui a eu lieu dans le Tarn. Et moi, ce que je retrouve à chaque fois donc dans les deux numéros, en tout cas pour le moment, c'est qu'il y a toujours, on l'a dit, vous avez parlé des bracelets électroniques dans les maternités, vous parlez du puçage des brebis. Donc dans le deuxième numéro, il est question du nucléaire, il est question du contrôle de la ville sur Marseille. Enfin, j'ai l'impression quand même que les sujets de la surveillance de la société reviennent souvent. Est-ce que c'est... Enfin, pourquoi, en fait? Est-ce que c'est parce que c'est d'actualité? Bon, déjà, oui.
Moi, je pense que c'est d'actualité, mais je pense qu'au-delà des questions de surveillance, c'est une réflexion peut-être un peu plus globale sur la confrontation qu'on vit au quotidien avec les nouvelles technologies. Et que ça, si ça parle de surveillance, ça ne fait pas que... ce n'est pas que le volet de la surveillance qui est étudié par ces articles-là. Par exemple, pour le nucléaire, effectivement, il peut y avoir des réflexions sur la surveillance des militants, mais c'est aussi tout le rapport qu'on peut avoir face à cette énergie-là. Enfin, je ne sais pas, c'est mon point de vue, mais...
Moi, j'ai l'impression aussi qu'on s'est retrouvés dans... Enfin, on a commencé à écrire un petit peu après une série de réunions publiques qui avaient eu lieu au Café de Paris. J'avais un peu envie d'en parler parce que je sais que Jean-Pierre, on s'était rencontrés pas mal là-bas et que donc c'était des réunions publiques sur les nouvelles technologies de police, ça s'appelait comme ça. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait des petits trucs sur les bornes biométriques, sur les bracelets électroniques dans les maternités. Et donc, on était un peu à fond dans ce sujet. Ça, on s'était pas mal renseigné. Dans ces réunions, on parlait aussi de bases élèves, de beaucoup de passes Navigo. C'est vrai que c'était un sujet qui nous intéressait pas mal à ce moment-là. Et c'est aussi depuis quand même pas mal d'années qu'un certain nombre d'entre nous s'intéressent beaucoup à ces questions de nouvelles technologies et de surveillance, contrôle, etc. Et donc, des liens entre ces deux sujets-là, quoi.
On peut savoir où est-ce que vous militez, enfin, en tout cas, au départ, où vous militiez, ce qui vous a réuni quand vous avez créé la revue ?
Justement, c'est un petit peu ce que je disais, c'est assez hybride en fait, l'équipe qu'on forme, et on peut pas dire que ce soit l'émanation d'une lutte en particulier ou d'un moment particulier non plus. C'est vraiment des gens qui peuvent se fréquenter, soit effectivement sur des luttes, notamment dans ces réunions publiques qui ont eu lieu là au Café de Paris, mais ça a pu
être... Amélie Le Montant, hein, d'ailleurs, mais avant... j'ai dit au hasard le Café de Paris.
Le Café de Paris, je pense qu'il y en a...
Il y en a à peu près...
Enfin, je sais pas, là, je pense que peut-être le seul dénominateur commun qu'on a en termes de lutte sur les gens qui sont là ce soir pour parler, ben, je pense que c'est le seul, en termes de lutte précisément, quoi. Après, c'est surtout une bande de copains qui avons l'habitude de discuter, peut-être de... Et qu'avions envie aussi d'écrire quoi, ensemble.
Ouais. Enfin, on est quand même un peu de la même génération étudiante, quand même, CPE et compagnie. Faut pas mentir non plus. Enfin,
sur oui, mais on l'a pas vécu ensemble, beaucoup, cette lutte.
Ouais, mais on sait beaucoup. Il y a pas mal de rencontres qui se sont faites par le trajet, le parcours universitaire en particulier. Toi aussi, je crois qu'il y a pas mal de gens que tu as rencontrés, que tu nous as fait rencontrer, qui venaient de ta formation en Bretagne. Et nous, on est. Enfin, sinon, il y a d'autres liens qui se sont faits autour de la fac. Non, faut quand même être honnête.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas.
Un groupe affinitaire de gens qui s'aiment bien.
Ouais, oui, c'est ouais, ça. Ouais. C'est plus un groupe affinitaire que. Comme l'exemple des gens qui font le journal La Brique à Lille, qui est un vachement bon journal d'ailleurs. Et ben eux, ils se sont vraiment organisés après le CPE. Ils se sont dit, voilà, ils ont eu l'habitude de monter des actions ensemble. Et à la fin, ils se sont dit, tiens, comment on va prolonger cette organisation-là, est-ce qu'on a pu dégager comme puissance à ce moment-là? On va le prolonger en créant un mensuel sur l'île de critique sociale. Et voilà, là, quand même, Z, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est plus, effectivement, affinitaire avec, quand même, un bain politique assez commun avec des expériences comme, effectivement, le CPE ou la lutte contre la biométrie ou ce genre de choses.
Et certains d'entre vous ont une formation de journalisme ?
En fait, on est deux, effectivement, à s'être rencontrés pendant le CPE dans un IUT de journalisme en Bretagne, à Lannion. Et sinon, pour les autres, non, c'est plus des parcours universitaires. Voilà.
Et vous êtes combien, alors ?
Bon, je pense qu'on
est... Sur le... Pardon.
Je ne sais pas, une quinzaine, quelque chose comme ça ?
J'ai l'impression que sur le premier, on était presque 20 à participer, mais ça s'est réduit. Enfin, je ne sais pas, en fait, parce qu'il y a après des participants... Le noyau dur, il était quand même de plus de 5 personnes, 6 personnes dans le premier, et depuis le deuxième, c'est plus 3 personnes. Mais à chaque fois, il y a des participations multiples, et il y a un peu aussi un truc un peu indéfini, qui participe, qui est invité à participer, qui est quelqu'un qu'on va, par exemple, interviewer. C'est toujours un peu comme ça se fait dans le... Parce que s'il y a groupe affinitaire, aussi l'itinérance, elle permet que les gens qu'on va inviter à participer ou qu'on va interviewer sur un sujet, ben, c'est aussi une rencontre... Enfin, il y a aussi un truc affinitaire dans ces rencontres-là. Vu qu'on reste un mois, enfin, l'idée, c'est de rester un mois dans un endroit, ben, c'est plus... Ça se décale de la démarche journalistique dans ce sens-là. Ça devient comme si ben, on allait discuter un peu entre amis... pour beaucoup de sujets, ça a été comme ça. Sur le puçage des animaux, en fait, c'est ce que disait Marie. On est allé voir, ils sont allés voir, moi j'y étais pas, un des paysans qui parle dans l'interview du premier numéro. Et c'était un peu un copain, mais surtout dans des. On le voyait dans des trucs militants, et c'est devenu un ami. Et d'ailleurs, c'est maintenant vraiment un ami pour certains. Donc au moment où il parle. Ben, c'est dans ce moment de rencontre, et sur le Marseille, c'est pareil, les gens sont devenus quand même des copains, s'ils ne l'étaient pas avant, donc c'est, voilà, c'est assez flou, en fait, qui participe, qui est... Bon, il y a un noyau dur de 3 personnes, maintenant, je vois dans ceux qui sont beaucoup, beaucoup allés dans l'itinérance, parce que comme c'était Amiens, là, ils pouvaient revenir tous les week-ends, et il y a eu donc quelques passages, mais ceux qui sont allés tout le mois, c'est 3... deux, trois personnes, quoi.
Mais est-ce que vous comptez revenir sur ces villes ou continuer
Bah en fait, ouais, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Anne, parce que là, vraiment, un des objectifs quand même de cette revue, c'est effectivement de pouvoir mettre en lien des réflexions, des luttes et des gens. Et ça, je pense que c'est sur un temps politique qui est assez long. c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre instantanée quand on débarque quelque part. Et là, on voit, bah, par exemple, à partir du travail qui a été fait dans le Tarn et des rencontres qu'on a pu faire notamment avec les bergers du Tarn, bah, y a une certaine continuité. C'est des gens effectivement qu'on revoit, qu'on prend le temps de retourner voir, non seulement parce que politiquement ça nous intéresse ce qu'ils font autour de la lutte contre le puçage, mais aussi parce que ce sont devenus des amis. Et bah, par exemple, on a le projet d'éditer une brochure qui pourrait diffuser pour répondre à toute la lutte qu'il y a en ce moment sur la fièvre catarrhalovine qui impose en fait aux producteurs ovins un vaccin, y compris dans des régions où les bêtes ne sont pas contaminées. Donc il y a tout un questionnement autour de ça et de ce contrôle bureaucratique et étatique sur la production, toutes les questions économiques que ça soulève et tout ça. Bon bah voilà, on garde une certaine continuité, enfin on essaie en tout cas d'entretenir une continuité entre le moment où on y est allé et ce qu'on peut continuer à faire avec eux. Et sur Marseille, bah, par exemple, on a rencontré les gens du journal CQFD avec qui on s'est très bien entendu, qui ont écrit dans le Z numéro 2, qui vont probablement écrire dans le Z numéro 3 et avec qui on envisage de faire des choses. Mais il y a des gens qui ont témoigné dans le Z numéro 2 sur Marseille. On pense effectivement les inviter s'il se passe quelque chose pendant le FRAP sur ces questions d'urbanisme et de gentrification. C'est des gens qui viendront parce qu'on a un lien avec eux et il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Et de la même manière, là, les gens qu'on rencontre à Amiens pour le numéro 3 dans le cadre des luttes sur le travail, bah voilà, ils ont un procès le 13 janvier, les 6 inculpés de Continental, ils passent en appel. Bon, bah, on va aller à ce moment-là pour le procès alors que probablement le journal sera fini. Mais on va garder un lien avec eux. On les a accompagnés il y a 2 semaines. Ils sont allés soutenir les faucheurs volontaires qui passaient en appel. Bon, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, qui sont de l'ordre un petit peu de la transversalité des luttes. Et on essaie un petit peu de participer à ça dans notre petite mesure, avec nos petits moyens, quoi.
Ouais, parce que je vois là, il y a eu plein de Marseillais aussi qui sont venus dans des trucs différents qu'on a fait. Enfin, voilà, des gens que les copains de Z ont rencontrés au moment de l'itinérance qui vont venir sur d'autres trucs maintenant, à Montreuil, à la CIP, à des trucs... ouais, ils ont participé à... Et ça, c'est vraiment un truc complètement... enfin, comment dire, c'est pas du hasard, il n'y a rien qui est du hasard, mais voilà, c'est pas... Enfin, c'est pas prévu, c'est pas organisé, quoi, comme ça. C'est ça se fait, quoi.
Je propose qu'on écoute un morceau de musique et puis on poursuit ensuite.
Que tu allumes au creux d'un lit, pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume, dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour les pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan. Pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et requin, pour les portes que tu lui ouvres sur la tanière des rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont en l'air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. Pour les étoiles que tu sèmes dans le rebord des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien.
le prêtre qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you Satan, thank you Satan.
Pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour la péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus. Pour les ballons que tu fais pète dans l'après comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais à la télévision. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi. Et qu'on ne me fasse pointer et que je chante pourtant bien. Dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Thank you, Salon. You are the bird man. Thank you, Salon. Thank you, Salon. Thank you.
Donc vous écoutiez un morceau donc écrit par Léo Ferré et repris je sais pas par qui.
Dionysos,
voilà. Donc vous êtes toujours avec les amis de Rouel et on est en train de parler de la revue Z. Donc on est avec Greg, Anne et Marie. Une question qu'on n'a pas posée tout à l'heure, mais donc pourquoi vous avez choisi le nom de Z?
Alors, personne d'entre nous n'avait vu le film de Costa Gavras et on n'était pas particulièrement fan de Zorro. Mais en fait, on a vraiment, vraiment galéré. Quoi. Pendant des soirées, on a écrit un tas de noms débiles sur des nappes de bistrot ou sur des bouts de papier et on ne trouvait pas, en fait. On n'avait pas envie de quelque chose qui soit, comment dire... On n'avait pas envie d'un, je sais pas moi, de l'étincelle ou de l'éclair ou de la résurgence ou je sais pas quoi, quelque chose qui évoquerait comme ça tout de suite un contenu. Enfin, je sais. Ouais, on avait envie de quelque chose qui nous.
En fait, il y avait différentes envies, c'était ça un peu le problème.
Ouais.
C'est que, en particulier, moi je me souviens que Greg et moi, on voulait vraiment un truc potache, genre nom de groupe punk, un truc un peu con, et que ça a pas, cette tendance-là ne l'a pas emporté. Et que Z, en fait, ça a été un peu... voilà, ça, c'était un moyen de ne pas fâcher... Enfin, c'était un peu un compromis. Franchement, il ne faut pas mentir.
Il y avait le côté compromis et il y avait surtout le côté graphique.
Ah oui.
Voilà, il nous manque un camarade pour parler de ça, qui est en train de ramener le camion. Mais voilà, lui, c'est celui qui a mis tout en page, qui a créé la maquette et qui a aussi écrit. Et il a, voilà, à un moment donné, il a écrit ça comme ça sur une feuille et on s'est dit,
mais
ça rend vachement bien.
Et dans tout l'appart où on faisait la réunion,
on a commencé à l'écrire partout.
Il l'a écrit partout avec plein d'objets, de stylos, il l'a mis sur sa porte.
On a fait des aides humains aussi.
Oui, voilà. Et bon, et après, c'était comme ça.
Non, voilà, puis on a trouvé que, avec cette question de l'itinérance, de l'aller-retour entre Montreuil et les endroits où on allait, bah, la lettre Z se prêtait bien à faire des petites flèches comme ça qui se rencontrent.
Et alors, une analyse rétroactive comme ça.
Ouais, c'est clair, parce que là, franchement, moi...
ça c'est plus, c'est vrai que ça a été plus progressif que ça, mais maintenant on peut dire qu'il y avait quelque chose de très intuitif dans ce Z.
C'est clair.
Et autrement, donc vous êtes domicilié à la Parole Errante à Montreuil. Quel lien donc avec cette association?
Alors ouais. En fait, c'est toujours un peu bizarre de répondre à ces questions-là parce que en fait, c'est assez informel tout ça. C'est la Parole Errante, c'est un lieu qu'on connaît parce que certains d'entre nous habitent à Montreuil ou peuvent être en squat ou sur des luttes à Montreuil sur le logement ou les questions des sans-papiers. Donc c'est quand même un lieu assez incontournable de la vie militante montreuilloise. Il se trouve que la famille Gatti, c'est une grande famille et que qu'on est copains avec des Gatti, quoi. Et que voilà, l'idée de se poser à la parole errante, c'était de se dire, bah voilà, on est quand même pas mal à Montreuil, en lien avec Montreuil, ce serait assez logique d'avoir une rédaction à Montreuil. Donc on a fait une demande comme ça, à la parole errante, qui a été étudiée, et on nous a prêté un bout de local qu'on occupe au-dessus d'une salle de sérigraphie.
Ouais, parce qu'en fait, c'est la famille Gatti, mais aussi d'autres... D'autres gars qui travaillent à la parole errante, avec lesquels il y a un lien, pour le coup, militant au départ et puis affectif, sur beaucoup, beaucoup de luttes montreuilloises, il faut le dire. Beaucoup sur l'Assemblée contre les expulsions qui agissait, les deux dernières années. Donc beaucoup sur la lutte sans papier, précisément contre les rafles et contre les expulsions. Justement, on me demande de temps en temps pourquoi on est là-bas. Je crois que ils nous aiment bien, ils aiment bien ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont en lien effectivement avec la parole errante, c'est assez informel, mais c'est quand même là pour le coup, c'est un lien au départ militant, pas précisément de la part, enfin vraiment Mais quand même, ça fait un lien. Je crois qu'ils ont aussi voulu nous prêter le local, parce qu'on disait, ben, il y a quelques journaux qui se mettent en place à Montreuil, en particulier sur la lutte contre les expulsions. Et on a dit, ben, on aimerait bien partager le local avec eux aussi. Et du coup, depuis, il y a pas mal de petits boulots qui se font là-bas, des gens de Montreuil. C'est très divers, encore une fois, mais c'est...
Autrement, je voulais revenir sur la question de l'itinérance. En fait, par exemple, pour revenir au premier numéro, donc l'idée, c'est donc de partir dans le Tarn, mais par exemple, il y a d'autres sujets qui ne sont pas du tout en lien avec le Tarn, comme la question du bracelet électronique dans une maternité en région parisienne.
Alors, le lien se fait par le puçage RFID, en fait. D'accord. Parce que ce qui est... Moi, je m'étais amusée quand même sur le premier à constater qu'il y avait une très grande cohérence, mais absolument souterraine. Enfin, absolument, pas absolument. C'est-à-dire que, on va dire, il y a... Donc, il y a le Tarn, cette lutte-là sur le puçage des animaux. Donc, on parle des bracelets électroniques dans les maternités. C'est une puce RFID, hein, dans le bracelet électronique. L'idée, c'est de la lecture à distance. Du coup, on parle de la surmédicalisation de la naissance, et ça faisait un lien, ça faisait une cohérence aussi avec la question des EPM. Et il se trouvait que l'Avoir dans le Tarn, il y a un des premiers établissements pour mineurs, un des premiers établissements pénitentiaires pour mineurs. Donc je me souviens plus bien du sommaire, mais ça marchait pas mal, je crois, quand même. La cohérence du numéro, même si on dirait qu'il y a des sujets assez différents, quoi.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour cette question des bracelets électroniques, en fait, sauf si ma mémoire déraille, mais je crois que en fait, on se disait, ce qui était sûr dans le Tarn, c'est qu'on allait faire quelque chose sur les bergers et le puçage électronique. Après, une des envies qu'on était plusieurs à partager, c'était de parler de la médicalisation de la naissance. Et on s'est dit, tiens, la médicalisation croissante de la naissance, elle est en lien aussi avec toute la fermeture qu'on peut voir en ce moment des maternités de proximité. C'est-à-dire qu'au même moment où les petites maternités ferment, on voit se construire d'hyperstructures hospitalières dans lesquelles un certain nombre de pressions médicales et de protocoles médicaux s'instaurent pour gérer le flux de patients qui abonde. Et donc, du coup, on est amené de plus en plus à faire respecter des protocoles de manière très rigoureuse. Ce qui fait que effectivement il y a une sorte de dépossession de ce moment-là. Et dans cet état d'esprit-là, on s'est dit, tiens, puisqu'on est assez sensible à ces questions de l'appareillage du vivant, de l'entubage de l'humain, on s'est dit, effectivement, il y a en plus de ça, ça se poursuit après même la naissance, en substituant à l'être humain, en installant sur les nouveau-nés des bracelets électroniques pour rassurer. Enfin là, peut-être que Anne t'en parlera mieux que moi sur comment on met en place ces bracelets électroniques. Mais il y avait cette idée-là, quoi, de dénoncer l'appareillage non seulement du moment de la naissance, de l'accouchement, enfin de la préparation de la grossesse à l'accouchement, et puis après, à la naissance, qu'est-ce qui se passe? Le nouveau-né, il arrive, paf, l'idée, c'est de lui coller un bracelet électronique.
Et en fait, le lien aussi avec le puçage des animaux, il est assez fort, parce que ce qu'on a essayé de critiquer, enfin de mettre en avant, c'est que pour un certain nombre de choses très naturelles, que sont la naissance, la reproduction des animaux, etc. Non, mais ça paraît absurde, mais finalement, moi, je trouve qu'il y a, dans les problématiques qu'avançait le berger dans l'interview sur le puçage, il disait, il y a des choses qu'on fait depuis des lustres, non, pas des lustres, des siècles qu'on fait dans l'élevage des animaux, que maintenant, on vient formaliser, bon, avec des cahiers des charges, avec des labels, tout un tas de trucs, mais aussi avec un appareillage mécanisé, quoi. Donc, sur la naissance, non seulement il y a ce puçage-là qui pour nous est une espèce de représentation du remplacement des humains. C'est même pas une représentation. Effectivement, on coupe des budgets de personnel dans les maternités, vraiment beaucoup, mais on va installer des objets qui permettent de remplacer, on avait fait un petit jeu de mots qui est quand même pas inintéressant, des humains pour veiller sur les enfants, c'est quand même tout, enfin c'est deux jours à la maternité j'ai accouché il y a pas longtemps, c'est vraiment pas longtemps qu'on reste à la maternité. Est-ce que vraiment il faut une machine pour surveiller l'enfant? C'est quand même bizarre. Et remplacer l'humanité de la nurse par une machine, c'est un peu la même chose qu'il disait, je trouve, moi, le berger, et puis aussi cette question de la surmédicalisation de la naissance, quelque chose d'aussi naturel que l'accouchement. Effectivement, la péridurale, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour c'est vrai que c'est travailler sur la douleur, je pense que c'est toujours important. Après, il y a plein d'autres manières que cette machinisation et cette médicalisation technique, surtout. Enfin, je sais pas, je crois que je suis un peu floue, mais qui est autant de machines autour de ces choses aussi simples que sont l'accouchement et l'élevage, c'est toujours un peu flippant, mais c'est parce que ça dépossède essentiellement parce que ça dépossède de quelque chose d'humain. Enfin, ça enlève de l'humain.
Puis il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'habituation aussi, c'est-à-dire que trouver ça normal finalement que un nouveau-né soit surveillé par une puce RFID et non plus par des sages-femmes, des nurses ou les parents eux-mêmes, accepter l'intrusion machinique comme ça dès les premiers instants de la vie, quelque part il y a une démission humaine là qui est quand même assez inquiétante. Qui semble important de dénoncer. D'ailleurs, je pense que, Anne, tu pourrais peut-être parler de ce qui s'est passé autour de la clinique où il y a eu quand même cette envie de dénoncer l'installation de ces bracelets électroniques. C'est assez intéressant de voir que, voilà, il y a eu un rassemblement devant cette maternité avec des distributions de tracts et ce genre de choses. Et que globalement, même si les gens effectivement sont plus ou moins réceptifs quand on leur dit, c'est pas pour rien qu'on met en ce moment le bracelet électronique, c'est aussi un enjeu complètement démago, où on va aussi dans le même temps mettre en place des alertes kidnapping bébé à la télévision, dans le métro, un peu partout. Enfin, ça participe comme ça de la création d'un univers anxiogène où la machine pourrait venir répondre aux problèmes effectivement névrotiques des humains. Et je crois que dans le mouvement, le rassemblement qu'il y a eu devant cette maternité, les gens effectivement se disaient peut-être un peu interrogés par ce développement des bracelets électroniques. Et en même temps, mais ça crée pas non plus de grands scandales, quoi. Ce qui est quand même un peu inquiétant, quoi.
On va passer peut-être une introduction en fait au deuxième numéro, puisque vous avez aussi produit du son qu'on retrouvera sur votre site.
Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Mais quelle culture? Qu'est-ce que la culture? Peut-être qu'on ne peut tout bonnement pas la définir, cette culture. Elle est multiple, nourrie par les mouvements des personnes qui vivent ici et qui ont vécu dans cette ville de Marseille. En tout cas, c'est sûr que la déclaration de culturel, du mot d'artiste par une administration centralisée, n'a rien à voir avec les habitants de Marseille. Elle aurait plutôt à voir avec des correspondances à des normes économiques décidées en Commission européenne, à l'image du jury déclarant la candidature de Marseille retenue sur des critères de faisabilité économique et politique. Du côté du local, c'est à n'y rien comprendre. Ou si, peut-être, au rythme des rencontres, des déambulations, on commence à y voir plus clair. On comprend que derrière le mot « culture » se cache celui de la récupération, l'ingurgitation du local pour mieux recracher loin du centre-ville les indésirables. Les pauvres de la Belle de Mai, où s'est établie une friche artistique. Les dockers en lutte, bien décidés à ne pas se faire prendre la parole par un festival tout fraîchement débarqué. Les petites associations culturelles de quartier, qui ne sont pas invitées à participer au bal mondain européen. La culture sert alors de vitrine pour constituer des musées, délimite ce qui doit être retenu de l'histoire de la ville et ce qui doit être oublié sur l'autel du progrès. L'élite catalogue, classe et parasite, pendant que le vivant devrait étouffer sous des litres de formol. Et on comprend par les mots de l'équipe municipale que Marseille 2013 n'est qu'un point de départ dans une stratégie globale de modification urbaine. Mais Marseille résiste et garde son esprit de mauvais élève de la France. Parole d'acteurs locaux de Marseille à propos de l'utilisation de la culture dans le paysage urbain et politique. On y croisera des personnes de maisons de quartier, des habitants créatifs et observateurs de Marseille, des dockers. Ce documentaire vous est proposé par Z, magazine itinérant, dont le second numéro s'est porté sur Marseille, sorti dans toutes les bonnes librairies début septembre 2009. Vous pouvez télécharger le documentaire sur http://zit.fr/radio ou demander un CD par le biais du site.
Vous êtes toujours avec les amis d'Orwell et on est en train de parler de la revue Z. Donc là, vous avez entendu un morceau, en fait, l'introduction de ce deuxième numéro qui se passe à Marseille. Donc pourquoi ce choix aussi de passer au son?
Alors en fait, on a remarqué qu'on avait un peu des méthodes de sciences sociales. Quand on rencontre les gens, on les enregistre en leur demandant, bien sûr. Et on s'est retrouvé avec beaucoup d'entretiens, enfin plusieurs dizaines d'heures, et avec des choses vachement intéressantes qu'on trouvait, on trouvait ça assez judicieux de penser à un autre support pour diffuser nos idées. Et il se trouve que parmi nous, il y a des gens qui aiment beaucoup la radio, qui sont assez à l'aise avec cet outil-là. Du coup, ils ont proposé de faire un montage. Et là, on se dit qu'on continue sur cette idée-là avec, depuis le numéro 3, un truc complètement informel, mais on a proposé, j'espère que vous n'allez pas me faire des gros yeux, on a proposé à FPP, qui a mis en place une émission Actualité des luttes plusieurs fois par semaine, de leur ramener du son d'Amiens et des luttes dans le cadre du travail à Amiens, parce qu'encore une fois, c'est jamais très très programmatique tout ça, c'est vachement des histoires de rencontres. Et il se trouve que c'est des gens avec qui j'ai passé du temps à Calais pendant le No Border au mois de juin dernier. Et voilà, on s'est recroisés à la rentrée et on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre ça en place. Et voilà, c'est toujours dans cette idée de penser un petit peu à la mise en réseau, à la mise en relation, et qu'est-ce qui fait du lien, qu'est-ce qui fait qu'on prend un peu d'épaisseur dans nos projets et dans nos manières de parler des choses et qu'on peut diffuser plus largement, quoi.
Alors, vous pouvez nous parler de ce deuxième numéro sur Marseille?
C'est encore moi.
Ouais, non, effectivement, là, il y a... Nous, on n'a pas... C'est Marie, surtout, qui a écrit. Moi, je le connais, ce numéro, parce que même si je suis moins investie dans les suivants, j'ai fait un peu de correction, donc je connais bien le...
C'est notre correctrice officielle.
Il y a eu beaucoup aussi de transcription, du coup. Donc, il y avait besoin de petites mains, vu que ça s'est... Il y a eu beaucoup de travail avec des entretiens enregistrés. Il y a eu pas mal de transcriptions. Du coup, voilà, il fallait des petites mains là aussi.
Des soutiers, quoi. Et à quand un syndicat?
Ouais, bientôt. Amiens.
Mais Marseille, en fait, c'est venu... parce qu'il y avait des gens parmi nous qui réfléchissaient vachement à ces questions de culture populaire, de culture institutionnelle et culture populaire. Et on s'est dit que ce qui se passait à Marseille actuellement avec le projet Euroméditerranée qui est censé de faire de Marseille une vitrine vers la Méditerranée et accompagné du projet Capitale européenne de la culture, il était en train de se jouer quelque chose au niveau de ces questions culturelles qui venaient rentrer en conflit avec la question de culture populaire. Et on a eu envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait là-bas, ce qui nous a permis aussi du coup de rencontrer les gens de plusieurs quartiers, notamment de la rue de la République, où les gens se font clairement massacrer depuis 5 ans, puisque la rue a été rachetée par un fonds de pension américain. Et puis après, ils se le sont vendus de main en main, c'est passé par Lone Star, enfin tout un tas de boursicoteurs américains. Et ce qui a eu pour conséquence simplement de faire évacuer 400 familles sur les 600 qui vivaient dans cette rue. Donc c'est plutôt une victoire pour le projet Euroméditerranée qui va s'installer au bout de cette rue, quoi. Donc qui voulait un petit peu se réapproprier ces immeubles et faire des belles façades. Donc tous les gens des immeubles ont été virés petit à petit. Et à Marseille aussi, on a eu envie de se concentrer sur d'autres sujets que ces questions d'urbanisme et de culture populaire. Et du coup, ça nous a amené à se tourner vers Cadarache et le gros site nucléaire de Cadarache.
Qui n'est pas directement à Marseille, mais qui est à portée d'accident, on va dire. Et donc, je pense qu'il nous a intéressé sur cette question. C'était, je ne sais pas exactement, en fait, le nucléaire, je pense, a toujours intéressé pas mal de gens autour de nous. Et à Cadarache, il y a quand même une concentration extrêmement importante d'installations nucléaires. Je ne sais plus le nombre précis, mais c'est...
Le plus gros site nucléaire français. C'est présenté comme ça, en tout cas.
C'est présenté comme ça, mais je pense que la centrale de Gravelines dans le Nord est pas mal aussi. Et c'est surtout des installations très vieilles. Puis on a vu, oui, dernièrement, au cours de l'été, le nombre d'incidents et d'accidents qu'il y a pu avoir dans la vallée du Rhône. Donc ça semblait intéressant quand même de se tourner un peu vers Cadarache, surtout qu'il y a ITER qui s'approche, donc ITER, le réacteur international qui fonctionnera avec la fusion nucléaire, enfin qui fonctionnera, on verra. Et comme il a eu lieu, enfin comme le site a été choisi parmi d'autres sites, parmi le Japon, parmi la Russie, les ingénieurs français en sont vraiment très très fiers et tiennent un discours qui est quasi délirant. Sur la possibilité d'avoir une énergie gratuite, ou du moins à très peu de frais, sans aucun danger, nous disent-ils. Et donc c'est quand même assez intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus et de se rendre compte que, j'ai pas de chiffre en tête, mais qu'il y a déjà plus de la moitié des physiciens nucléaires qui pensent que ce projet n'arrivera à rien et que la fusion nucléaire est une chimère des années 50 de la science-fiction. Donc voilà, c'était important d'aller jeter un petit coup d'œil... de pouvoir rencontrer aussi des gens des environs qui n'étaient pas d'accord, et il y en a beaucoup, puisqu'au-delà du projet scientifique et des dangers qu'il pourrait amener, il y a aussi énormément de chercheurs qui vont débouler dans la vallée, s'installer, faire monter les prix, venir avec leur train de vie, en fait. Et c'est aussi, bizarrement, on rejoint un peu Marseille, c'est aussi une sorte de gentrification.
Vous pouvez détailler un peu ce terme, gentrification ?
C'est l'établissement, je ne sais pas, le terme gentrification lui-même, c'était... C'est un terme de géographie, c'est l'arrivée dans des quartiers populaires de gens d'un milieu plutôt aisé et donc qui viennent, malgré eux, hein, peut-être, virer les habitants originaux. Et en général, quand il y a un grand projet scientifique qui fait appel à des ingénieurs de toute la France, je pense à ITER, mais je pense aussi à... Le bon exemple, c'est Toulouse, avec la concentration d'industrie aéronautique. C'est vrai que les gens viennent avec leur famille et ça fait tout de suite 5000 ou 6000 ingénieurs, leur famille, on va dire 20000 personnes qui viennent s'installer avec des gros revenus, des gros pouvoirs d'achat. Les loyers montent, donc des gens partent, tout simplement. Ça fait partie de certaines oppositions à ces projets.
Mais c'est le projet aussi d'un certain nombre de en particulier à Marseille, je crois qu'il y a vraiment... Et puis en plus, il y a une espèce de... Enfin, il y a une colère qui monte vraiment. On parle de, enfin, les gens qu'on rencontre, ils disent ouais, ça c'est le quartier des riches et comme un, voilà, une espèce de fossé énorme entre ces gens avec ce revenu. C'est pas, enfin, il y a un fait qui est, je sais pas, l'héliotropisme, je sais pas quoi, ou enfin tous ces chercheurs, enfin ces ingénieurs de technologie de pointe qui débarquent dans le sud et tout, qui font, voilà, qui changent aussi la société. Et sur ces centres-villes populaires comme celui de Marseille, c'est voilà, ça se passe comme dans d'autres centres-villes, Paris entre autres, où il y a à la fois des quartiers d'affaires qui vont devenir vachement grand. Désolée, ça sonne en même temps. Donc des quartiers d'affaires, c'est-à-dire beaucoup de bureaux avec des immeubles énormes qui déshumanisent totalement la ville. Et aussi, ce que moi j'appelle plutôt boboisation, c'est-à-dire espèce d'aménagement des quartiers populaires avec une... je sais pas comment on dirait, une espèce de réutilisation et
du métissage de la ville de Marseille.
Métissage de la ville de Marseille, mais c'est vraiment une espèce d'appropriation, même d'expropriation, je trouve, des espaces et des marqueurs culturels, enfin des marqueurs, je sais pas, des symboles culturels plutôt, je dirais. C'est très violent, en fait. C'est violent dans les fêtes, parce qu'il y a des gens qui se font virer de leur maison, etc. Mais c'est violent aussi dans psychologiquement, je pense. Et donc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville, c'est un peu la même chose. Et c'est assez cohérent. Enfin, je trouve que ce soit autour d'énergie nucléaire qu'on puisse aborder ce genre de sujet, parce que ça correspond à un projet de mode de vie qui est de continuer la surconsommation avec donc des nécessités en énergie qui sont absolument considérables, parce que faut voir que les ingénieurs, ils arrivent avec aussi des vu qu'ils ont un niveau de vie tel qu'il est, ils ont aussi des besoins et des possibilités de répondre à ces besoins, ces nouveaux besoins d'ailleurs.
Ce qui était intéressant aussi dans le fait d'aller, à Marseille, c'est de montrer à partir de la ville de Marseille un processus qui a eu lieu dans la plupart des grandes villes d'Europe, de France et des autres capitales européennes et des grandes villes occidentales, et que ce processus-là, à Marseille, il est encore en marche, et toutes les cartes ne sont pas encore jouées, en vérité. Il y a quand même un certain nombre de résistances, avec notamment cet entretien où une fille, une personne s'exprime sur la réappropriation d'une dent creuse, donc d'un terrain vague dans un des quartiers populaires de Marseille, qui est littéralement récupéré par une bande de copains qui veulent en faire un lieu de vie et de partage avec les autres habitants du quartier. Et effectivement, c'est ce qui se passe sur ce terrain depuis plus d'un an, où il y a régulièrement des projections, des discussions, de la bouffe, on joue au foot, on fait tout un tas de choses. Et il y a cette mise en commun, cette mise en termes politique de l'espace qu'on se fait peu à peu grignoter par des projets urbanistiques. Et là, c'est assez intéressant. Donc il y a ces résistances-là. Il y a d'autres gens aussi qui ont squatté un immeuble dans la rue de la République pour dénoncer toutes les spéculations qui avaient lieu dans cette rue. Il y a aussi tout un nombre de gens qui ont bien l'intention, et j'espère qu'ils réussiront de saboter tout le battage là, qui se fait autour de Marseille, capitale européenne de la culture. Voilà, il y a des résistances, il y a des choses qui sont pas il y a des choses qui sont encore de l'ordre du possible. Et voilà, Marseille, c'est pas une ville qui est laminée, qui est, même si Alessi de Lumbria, avec qui on fait une dérive dans Z et qui a écrit l'histoire universelle de Marseille, il aime bien dire que Marseille, c'est une ville vaincue mais qui résiste par la force d'inertie. Ça, c'est vrai qu'on sent que voilà, il n'y a pas quelque chose d'ultra organisé et hyper déterminé, mais en même temps, il y a effectivement cette inertie, et au-delà de cette inertie, il y a quand même des gens qui se bougent sur différents projets. Donc c'est intéressant de voir Marseille à ce moment-là de son histoire, quoi, qui peut encore avoir prise sur son destin et sur ce qui s'y passe, quoi.
Là, il nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être que ça peut être intéressant de parler du troisième numéro qui est en construction, et je ne sais pas quand est-ce qu'il sort.
Ouais, j'allais faire un lien sur Marseille et sur le premier. J'ai l'impression qu'on était pas mal concentrés sur la critique la critique sociale entre guillemets sur le troisième numéro. Je crois que le sujet était déjà orienté sur la question de la lutte, alors avec une histoire longue, celle de la lutte. Donc le sujet sur l'itinérance à Amiens, c'est les luttes syndicales, enfin les luttes dans le travail, et en particulier les luttes syndicales. Donc c'est intéressant parce que justement, c'est là pour le coup, on est déjà orienté vers un truc de résistance, quoi. Je sais pas ce que t'en penses.
J'ai l'impression que ça se dessine de plus en plus comme ça. C'est de plus en plus assumé. Ouais,
il n'est pas fini un numéro, donc.
Il est un peu laborieux celui-ci parce que la Picardie au mois de novembre, là cette nuit c'est -10 dans le camion. Bon, ça c'est un peu dur.
Vous dormez dans le camion, c'est ça?
Ouais. Enfin, par moment on dort aussi ailleurs. C'est un grand camion, ouais, qui se déplie, donc on peut y dormir à plusieurs. Et là, ouais, effectivement, il y a quelque chose qui était de l'ordre de, on a vraiment envie de parler des luttes et de ce qui peut porter. Et effectivement, là, on a commencé un petit peu à regarder ce qui se passait autour de nous et de voir toutes ces usines qui ferment à droite à gauche et de voir que, effectivement, au mois de mars de l'année dernière, on pouvait penser qu'une grève générale allait se mettre en place avec des séquestrations de patrons qui se multipliaient, des menaces de faire sauter des usines. Enfin, il y avait quand même quelque chose d'assez fort. Et voilà, on a eu envie de se pencher un petit peu là-dessus. 6 mois après le gros bordel à Continental, qu'est-ce qui reste de cette lutte-là? Où en sont les gens? Qu'est-ce qui les anime? Quels idéaux, les portent? Et voilà, donc on est allé là-bas, sur Amiens, et en fait on s'est rendu compte que qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un paysage industriel dévasté. Alors, ce qui est assez bizarre d'ailleurs de dire ça dans Z, parce qu'on n'est pas pour l'industrie lourde et on n'est pas sur une ligne PC productif et tout ça. Au contraire, on questionne vachement l'industrie. Mais en même temps, il y a quelque chose dans ces luttes-là ouvrières qui se joue, qui semble hyper important à montrer et donner à voir. Bon, après, ça pose plein de questions, quoi. C'est-à-dire, en l'occurrence, moi, effectivement, je ne suis pas pour que les gens puissent continuer à travailler en usine toute leur vie. Et là, on rencontre quand même des gens qui sont mordicus à défendre le maintien de leur emploi et de leur usine. Ce qui pose quand même quelques questions, parce que ces mêmes usines, par ailleurs, produisent... des choses qu'on peut vouloir critiquer et dénoncer, mais j'ai perdu mon idée. Mais dans ces luttes-là, il y a quand même le refus de se laisser complètement ratatiner. Il y a une capacité à s'organiser. Il y a une certaine combativité qu'on voit pas forcément dans d'autres milieux du travail, quoi, et qu'il était intéressant pour nous de montrer. Et là, c'est ce qu'on rencontre. Et moi, je trouve qu'il y a quand même d'assez belles choses, quoi, notamment à Goodyear, Continental, à Dunlop. Enfin, il y a des gens qui sont hyper remontés, qui luttent depuis plusieurs années, aussi bien sur le plan juridique, mais aussi au quotidien, en faisant de la débine, du refus de soumission à l'autorité, tout un tas de choses. Et de montrer que ce monde du travail, il résiste aussi et il ne se fait pas juste laminer. Je trouve que c'est intéressant, quoi.
J'ajouterais que c'était quand même vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant pour nous d'explorer ce sujet-là, parce que justement, dans notre parcours militant et autres, on s'est vachement écarté justement de la question du travail par idéologie aussi anti-industrielle et parce que c'est le travail pour nous, c'était quelque chose à combattre et de retrouver des vieux trucs. Ça nous bouscule un peu quand même, en fait, de retrouver aussi est-ce qu'on peut faire quelque chose de cet héritage ouvrier, de lutte ouvrière, et qu'est-ce qu'il en reste, quoi, et comment ça peut nous apprendre des trucs.
Ouais, et notamment là, les choses intéressantes qu'on rencontre, c'est notamment à Continental la mise en place d'un comité de lutte. Pourquoi? Parce que 10 ans plus tôt, il y avait eu la lutte autour de l'usine Chausson qui avait été menée et qui avait été victorieuse. Enfin, victorieuse, l'usine a fermé, mais les gens ont eu des indemnités de départ assez incroyables. Et voilà. Et donc nous, il y a des gens qui nous ont dit, mais pourquoi vous allez donner la parole à des gens? Qu'est-ce qu'ils ont gagné, ces gens-là? Ils ont gagné un chèque. Enfin, il y a quelque chose de minable, finalement, de se battre pour un chèque. Alors voilà, on y est allé avec cet a priori-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui nous ont dit plein de choses intéressantes. Et parmi ces choses qui nous ont questionnés et bousculés, qui aujourd'hui peut encore dire voilà, moi, pour les 7 ou 8 ans à venir, j'ai du pognon, tranquille, et ça me permet de sortir du salariat, de réfléchir à ce que je veux faire, de continuer à m'investir sur différentes luttes, comme participer à la lutte des faucheurs ou aller soutenir les autres camarades qui sont en train de se faire licencier à droite à gauche. Et ça, ça a du sens, quoi.
Bah merci. Donc voilà, nous avons reçu donc des personnes de la rédaction de la revue Z.
Thank you.